Je me sens vraiment poussé, non seulement de vous dire bonjour, mais que la paix du Seigneur soit avec nous. Surtout que je vais parler de la guerre. Vous imaginez ça? La seule chose que j'aime avec la guerre, c'est qu'une victoire et ensuite il y a la paix. De la part de Mourad, j'aimerais vous dire combien il était touché par la réunion de mercredi soir. Il a eu beaucoup, beaucoup de joie, et je crois nous tous aussi. Je me permets de dire qu'avec Raymond, nous avons prié avec lui le lendemain pour le sujet qu'il a partagé avec ceux qui étaient là. Si vous n'étiez pas là, mais je n'ai pas le droit de le dire derrière son dos. Il a partagé un sujet personnel de sa vie avec le Seigneur, et nous avons prié le lendemain en communion avec vous, j'en suis sûr. Et puis il est parti jeudi, on a passé la journée ensemble, et il est parti jeudi soir, tellement reconnaissant de ce qu'il a reçu pendant les journées à l'IBG, et en particulier la soirée ici, où il s'est senti de la famille. Ça c'est votre faute, hein? C'est une bonne faute ça, hein? Il s'est senti vraiment de la famille, et ça fait du bien. Alors cette semaine, on va beaucoup entendre parler de la guerre. Ce n'est pas un beau sujet, hein? Mais on va en parler. Et je crois que c'est important qu'on en parle, pas seulement de ce qu'on va nous dire cette semaine, mais parce qu'il faut qu'on se rende compte qu'en tant que chrétiens, nous sommes engagés dans une guerre. Je ne sais pas s'il est légèrement plus âgé. Vous n'avez pas besoin d'avoir 90 ans, 95 ans pour vous souvenir. Mais il y a un moment donné, notre président, François Mitterrand, a dit un matin, enfin peut-être tout l'après-midi, j'étais dans une école biblique en Suisse en train d'enseigner, avec les professeurs, on s'est réunis, on a écouté Mitterrand, il a dit, nous sommes en logique de guerre. Ça m'a fait quelque chose d'entendre ça. J'en ai déjà vécu une, je n'avais pas envie d'une autre. Nous sommes en logique de guerre. Mais il avait raison. Et la suite, c'était qu'on était encore plus craintif. Je me souviens, le lendemain, j'étais vraiment craintif. Parce que j'ai entendu tout ce que Saddam Hussein allait faire avec nous. Vous vous souvenez? De tout ce qu'il avait en réserve comme arme secrète. Et tout ça, c'était de la blague. Mais c'est comme le diable. Le diable, il est parsimètre dans tout ce qu'il y a comme mensonge. Et quand il y a une guerre, nous en tant que chrétiens, on est au début d'une guerre, ou dans une guerre, on est engagé. Et nous allons parler de ça ensemble ce matin, mais j'aimerais lire un verset dans Éphésiens 6 et le verset 12, si vous avez vos Bibles. Et sinon, c'est peut-être sur le tableau, j'en sais rien. Mais Éphésiens 6 et le verset 12, nous lisons ceci. « Car, dit l'apôtre Paul, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est formidable ça, de tenir ferme après avoir tout surmonté. Notre guerre, je le dis pour que ça soit clair, si jamais il y a quelqu'un qui le pique sur l'Internet, notre guerre n'est pas contre les autorités de notre pays, loin de là. Ni contre les municipalités, où nous avons un ministère, vous et moi, c'est d'être non des artisans de guerre, mais des artisans de paix. C'est pas là où il y a la guerre. Mais nous combattons contre les dominateurs des ténèbres ici-bas, contre les esprits du mal, contre le péché, la tyrannie du péché. J'ai entendu cette phrase cette semaine. La tyrannie du péché. Si vous ne savez pas ce que c'est que la tyrannie du péché, je vous recommande de regarder le festival de Cannes, où il y a ces belles dames et demoiselles qui sortent après les films. Moi, j'en ai regardé de près l'autre jour, par hasard. Et je les ai regardés, je ne les ai pas trouvées belles du tout. J'ai trouvé qu'elles avaient les yeux cernés et on voyait quand même la suite de tout ce qu'elles avaient vécu pour essayer d'être belles et toute la suite. Parce que le péché, c'est une tyrannie. Et nous arrivons à notre premier point, les attaques du malin. C'est le malin qui est de l'autre côté et nous sommes du côté de Jésus. Vous y êtes ? Oh, il n'y a que quelques-uns qui sont là. Non, ce n'est pas vrai. Qui est-ce qui est du côté de Jésus ? Oui ou non ? Oui, amen. On est du côté gagnant. Vous savez, une espèce de théorie qui se promène pour détourner les gens de la vérité, que nous sommes dans une situation de deux. Il y a Dieu contre le diable et le diable contre Dieu. Vous croyez ça ? Moi, j'y crois pas. Hein. Il y a le diable, mais Dieu a déjà gagné la victoire. Ce n'est pas lui qui est en train de lutter contre le diable pour savoir qu'est-ce qu'il va gagner. La victoire est déjà gagnée. Mais si la victoire est déjà gagnée, il faut faire comme on a lu dans Éphésiens 6 et verset 12, il faut savoir la nature de cette guerre. Je me souviens de cela. Je me souviens de ce mois de juin. J'étais à l'école, au lycée, et je me souvenais que De Gaulle, vous avez entendu parler de lui, hein? Ah, c'est bien, c'est pas si loin que ça. De Gaulle, Churchill, Roosevelt et les autres s'étaient consultés ensemble pour savoir comment ils allaient faire. Ils avaient préparé un plan. Mais c'est ça que nous faisons dans Éphésiens 6 et verset 12. Sachez que votre guerre est contre les principautés dans les airs, contre les forces des dominateurs du mal. Il faut savoir que c'est comme cela. Bien-aimés, la vie chrétienne, moi j'ai souvent dit cette phrase, ça choque un peu, mais je ne m'en excuse pas. La vie chrétienne n'est pas du jojo. Hein. La vie chrétienne, c'est une guerre en vue de la victoire et nous y sommes. Dans le 7e chapitre de Romains, j'aimerais lire quelques versets. C'est peut-être le texte que j'aurais pu lire au début. Vous auriez pu m'arrêter et me dire, tu n'as pas de texte, alors j'en ai un quand même. Dans Romains 7, nous allons lire quelques versets ensemble, versets 19 et 20, dans le chapitre 7. Paul dit, je ne fais pas le bien que je veux. Hein? Ça vous dit quelque chose, ça? Ça vous dit rien? Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais c'est le péché qui habite en moi. On va laisser les choses là? Non, on va aller plus loin. Verset 24. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul était donc conscient de ces choses. Ce texte de Romains 7, il est bon de le lire, de se rendre compte que la guerre est sérieuse. C'est le combat que Paul a vécu. Il y a de grands théologiens, deux ou trois, comme Lennart et Matin, qui essayent de dire que ça ne devait pas s'appliquer à la vie de Paul. Mais je pense que Paul s'est rendu transparent. Il était serviteur de Dieu. Mais il a dévoilé qu'il passait aussi par le combat. Et j'aimerais vous dire qu'il ne s'agit pas d'être serviteur de Dieu pour ne pas avoir de combat. On a tous des combats. Quand on prie pour les anciens, les responsables de l'Assemblée, pourquoi est-ce qu'on prie pour eux particulièrement? Ils sont privilégiés? Non, je dirais le contraire, que c'est dur d'exercer leur ministère. Ils ont besoin qu'on prie pour eux, qu'on les soutienne, pour que le Seigneur les garde. Je parlais dans la voiture avec Hélène tout à l'heure, d'un de mes meilleurs amis qui m'a aidé dans les camps. On avait vécu un camp béni, pas tellement loin d'ici, dans les Alpes vaudoises. Un camp béni. Et cet homme était avec moi, un de mes bras droits dans le camp. Et le dernier jour du camp, il affiche le camp avec une secrétaire. N'oublierai jamais ça. Et je me suis dit, mais il faut prier pour ceux qui sont devant. Ce n'est pas facile d'être là. Il faut prier pour les responsables. Il faut prier pour les missionnaires. On a Mélanie parmi nous ce matin, quelque part. Je ne sais pas où elle se cache, mais je sais qu'elle était là. Oh, elle est là, voilà, elle se cache bien. Elle est dans un pays où c'est très dur. Et nous avons à prier. Et vous et moi, on est dans un pays où c'est très dur aussi, hein? Pas vrai? Et nous avons à prier les uns pour les autres. C'est pour ça que la réunion de prière et les cellules de prière sont tellement importantes. J'étais béni cette semaine. On a eu deux réunions, mais les deux, j'étais béni dans les deux. C'était formidable. On a besoin de prendre du temps pour combattre dans la prière contre ces attaques. Le combat chez Paul, c'était entre la loi de Dieu et la loi de la chair. Parce que ce n'est pas parce qu'on est devenu chrétien que la chair n'est plus là. Hein? Je ne parle pas de ça. Hein? Mais je parle de l'esprit du malin. Il est là. Et nous avons à prendre position contre lui. Pas en mes forces. Hein? Pas en mes forces. Je ne dis pas Satan, arrière de moi. C'est trop dangereux. Mais Satan, arrière de moi au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est autre chose. La victoire ne vient que par Jésus-Christ. Donc, c'était un combat qu'il avait. La transgression, le péché que Paul vivait, nous allons essayer de l'expliquer. C'est le mot dans le texte, c'est un mot grec, amartin, qui veut transgresser, de passer à travers une loi, de traverser une loi. Et c'était contre la loi de Dieu. Et ça amène Paul a dit ce que nous lisons dans ce verset 24, « Malheureux que je suis !» Ça vous est jamais arrivé d'être malheureux comme ça? Si vous me dites oui, oui, je dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que si on est malhonnête et on blague, c'est là où on risque de tomber. Hein? Si un homme se tient debout et croit pouvoir se tenir debout, il risque de tomber. Il risque de tomber. Et cette semaine, j'ai dit à mon beau-frère au téléphone hier, j'ai dit, Francis, je n'ai pas envie de prêcher demain matin, parce que c'est un sujet difficile à partager. Il m'a dit, je prie pour toi. Oui, on est dans cette situation aussi facilement, il peut y avoir ce clash entre le moi et ce que le Seigneur veut faire. Et ce que le Seigneur veut faire ce matin, c'est quelque chose de formidable. De ramener la paix où il y avait la turbulence. Peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui est dans cette période de turbulence. Quelqu'un qui dit, malheureux que je suis, je veux servir le Seigneur, je n'arrive pas. J'aimerais te dire que tu n'arriveras jamais, hein? Jamais. Dans les forces personnelles, on n'arrive point, pas du tout. Hein? Il faut céder complètement. Seigneur, j'en peux plus, j'ai besoin de toi. Là, ça, c'est le commencement d'avec toi. Si on dit, Seigneur, j'en peux plus, j'ai besoin de toi, alors là, la victoire peut être annoncée. Et souvent, tout cela amène un sentiment de culpabilité. On se réveille au milieu de la nuit et on ne sait pas trop bien pourquoi ça tourne pas rond. Ça grince et on se demande. Et quelquefois, c'est le remords qui produit l'insomnie, on n'arrive pas à s'endormir parce qu'il y a quelque chose qui pèse sur nos cœurs. Si on reconnaît ça, c'est bien. J'aimerais vous recommander, si c'est le cas pour quelqu'un, le Seigneur t'aime particulièrement, toi. Parce qu'il a de la compassion pour ceux qui passent par des passages difficiles. Le Seigneur a de la compassion pour toi. Il voudrait que tu apportes ça à ses pieds. Et ce serait bien. Si quelqu'un vit cela, une sœur ou un frère, d'aller trouver une sœur plus âgée ou un frère plus âgé et prier avec cette personne. Il est tellement important d'avoir un témoin quand on remet les choses au Seigneur. Parce qu'au moment par la suite, on peut dire, tu te souviens, on a prié ensemble, on a pris position, on a confessé et accepté la victoire du Seigneur. Mais le Seigneur intervient. Il y a un verset qui m'encourage. Esaïe était découragé devant les péchés de son peuple, devant son incapacité. Et devant tout cela, il décrit la compassion de Dieu le Père. Dieu le Père, venez donc, dit le Seigneur. Nous allons nous expliquer. J'aime bien cette traduction. Dans d'autres passages, c'est dit, conseillante, nous faisons conseil ensemble, mais j'aime bien cette traduction, nous allons nous expliquer. Hein? Une de mes belles-filles dit ça à ses enfants quelquefois quand ça n'a pas été. Viens là, on va s'expliquer. Et on sait, c'est en vue de la victoire. Nous allons nous expliquer, dit le Seigneur. Si tes crimes sont en atteinte du sang, tu vas devenir blanc comme la neige. Ça, c'est une promesse. Une promesse. N'allez pas à côté de cette promesse-là. C'est une promesse formidable. Tu as un fardeau, mais ce matin, c'est pour que ça soit délivré, que tu sois délivré de ce fardeau. Le Seigneur ne veut pas te laisser là. Il ne veut pas te laisser traverser là, le seuil de cette porte en portant cela encore. Venez. Nous allons nous expliquer. Que tes poids, le poids de ton péché soit comme de la croix moisie. Pourquoi ce mot est cité là? C'est une racine qu'on utilisait pour donner la couleur ange vive aux vêtements. Et c'était presque impossible d'effacer par la suite. Alors si c'est comme cela, le Seigneur dit, moi je peux intervenir. Et il y a des passages dans la parole de Dieu qui disent, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est parce que Jésus-Christ est mort à cette croix, pas celle-ci, mais à la croix, que nous pouvons y aller et demander de l'aide. Le combat de la foi, le combat de la foi. J'ai voulu intituler les différentes parties de ma méditation ce matin comme une description de la guerre qui va être célébrée, ou la paix qui va être célébrée cette semaine. Et cette partie de la victoire dont nous allons parler cette semaine, où nous allons voir les bateaux qui viennent sur les plages, tout ça a été planifié avant. Et la victoire a été planifiée par le Seigneur. Je te promets, frère, je te promets, sœur, une victoire qui a été planifiée par le Seigneur. Mais il y a des avertissements, comme nous lisons dans 1 Pierre 5 et 8. Votre adversaire, oui, on a un adversaire. Le mot adversaire traduit le mot Satan. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche qui se laissera dévorer. Si tu refuses de te faire dévorer, opposez-vous à lui avec une foi inébranlable. Les films que j'aime beaucoup regarder quand j'ai un moment de libre, ce qui n'est pas souvent, mais à la télé le soir quand je suis fatigué, de la Saint. Et la mer quand elle est calme, et les films de nature. Il y a des films de nature que j'arrête tout de suite, que je n'aime pas. C'est quand je vois un troupeau, quelque part dans une de ces régions de l'Afrique, il y a un lion qui poursuit le troupeau et qui saute sur la dernière bête dans la série, qui met ses griffes dans cet animal et qui traîne l'animal, qui verse du sang, qui traîne dans les mains jusqu'à dans sa tanière. C'est ça que le diable veut faire. C'est ça que le diable veut faire, mes amis. Il veut faire avec toi, mais ne laissez pas faire. Opposez-lui, comme le passage dit ici, opposez-lui, voyez-lui avec une foi inébranlable, pas votre foi en vous, hein, mais notre foi en Jésus-Christ. À la fin de sa crucifixion, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Et il reste encore quelque chose que je devrais faire. Non, c'est fini, c'est achevé, l'œuvre que le Père m'a donnée à faire. Et la croix de Jésus-Christ est un lieu de victoire, parce qu'il est ressuscité. Mais pour que nous soyons ressuscités avec lui, c'est terminé tout cela. Et Paul parle à son Timothée principal, il lui écrit une lettre pour qu'il soit au clair. Il dit, si ça t'arrive tout cela, Timothée, toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Il y a toute une liste de choses. S'il y a quelque chose qui te piège, qui t'amène à être piégé et de tomber, de chuter, fuis cette chose, fuis cette chose. Confessez-le à notre frère et notre sœur. On a besoin d'être à deux pour cela. On a besoin d'être transparent pour cela. On est en route pour le même ciel. Hein? on est en route pour la même victoire. Alors partageons-le. Et j'ai mis le mot « résister » là. Vous avez remarqué, il n'y a pas une faute de frappe. C'est comme ça qu'on écrivait avant. Et si vous alliez à Aigues-Mortes, vous irez dans cette tour d'Aigues-Mortes dans le midi, pas très loin du Rhône, et vous verrez dans ce musée-là où ces femmes, je crois une douzaine de femmes, étaient en prison pour leur foi. Et une, avec son doigt et l'ongle de son doigt, a gravé dans la pierre « Résistez, résistez ». Et quand ils étaient découragés, ils ont regardé ce mot « résister ». Ce n'était pas dans leur force, mais dans la force de Jésus-Christ. Il y a le chant qu'on a eu l'autre soir, que j'ai demandé de préparer pour ce matin. Veux-tu du péché gagner la victoire? La force est en Christ. C'est ça la réponse. Et mes jeunes, j'aimerais le dire. Jeunes aux plus âgés, on a des tentations à tous les âges, puis vous le dire. J'en ai fait l'expérience depuis pas mal d'années. Hein? Vous savez, on est tous tentés, tous éprouvés. Mais la victoire, c'est la même. Et là, nous disons dans Jacques 4 et verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu. » On n'y va pas dans ses propres forces. « Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux relire sa parole. Je veux relire ta parole. » Je ne sais pas si vous avez lu les notes SPPA ce matin, mais ces notes était surtout au sujet de lire la parole, de la relire, de la saisir pour soi-même. Lisez la parole, partagez la parole avec votre conjoint, votre conjointe. Ou si vous êtes seul, téléphonez à quelqu'un de l'Assemblée et dire « Mais j'ai un verset qui m'a parlé ce matin. » Faites ça chez moi, moi je suis heureux de recevoir votre coup de téléphone, ne le faites pas tous en même temps. Hein. Autrement, je n'arriverai plus rien à faire dans la journée. Mais c'est bien quand quelqu'un téléphone disant « Voilà ce que le Seigneur m'a donné comme promesse de délivrance. » Et je dis « Amen, Seigneur, bénis notre frère, bénis notre sœur. Amen. Au revoir. » C'est important ça. C'est important ça, de témoigner. Résistez, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a résisté au diable. En citant la parole de Dieu, c'est ça qui est important. J'ai beaucoup aimé ce matin que notre sœur a dit, mais la louange, ce n'est pas que des chants, c'est la prière. Moi, j'aurais ajouté, mais je ne voulais pas l'interrompre, et c'est aussi citer la parole. C'est citer la parole. Mais c'est important de citer la parole, que la parole nous marque, que ce qui t'a marqué cette semaine, mais dimanche prochain, au moment de la louange, cite ce verset, ne fais pas une prédication là-dessus. Et si c'est le psaume 119, ne lisez pas tout le psaume non plus. Hein. Mais c'est un verset, dis-le. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Tenez-vous près de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Une promesse là. Il se tiendra près de toi. Les attaques du malin, c'était notre premier point. Vous l'avez noté? Les attaques du malin. On y passe tous. Le combat de la foi, si on veut la victoire, il y a un combat. Il y a un combat. Moi, j'ai trouvé ça très dur de regarder quelques extraits de ce qu'on va voir cette semaine, de regarder ces soldats qui sautaient du bateau et qui mouraient de suite sur la plage. On a vécu ça, ceux de mon âge. On a vu, on a suivi par la télévision parce qu'on n'avait pas. Mais on a suivi à la radio. Par les échos, par le fait que des messagers venaient dans telle maison, pour annoncer la mort d'un soldat. C'est le combat dans lequel nous sommes. Et mon troisième point, le débarquement. Le débarquement. Le débarquement, c'est quand il y a un royaume qui envahit un autre. Et le royaume qui veut envahir l'autre, c'est le royaume de notre Dieu. Le prince de paix qui veut envahir et gagner la victoire. Est-ce que nous prions ça pour notre pays de France, sur le pays à côté, la Suisse? Je n'ai pas besoin de vous dire que les choses vont mal en France et pas mal en Suisse aussi. Hein. Est-ce que nous prions pour qu'un jour nos gouvernants se tournent vers Jésus-Christ, se tournent vers lui? Il y en a peu qui reconnaissent le Seigneur Jésus. Il y en a une qui a eu le courage de rentrer dans la Chambre des députés avec sa Bible dans sa main et en l'air. Elle a pris position. Et nous sommes dans cette guerre-là, le choc, l'entrechoc entre deux royaumes. Et j'aimerais bien qu'on ait un mot d'explication là. Le diable veut s'emparer de ce qui lui appartient pas, de ce qui lui appartient pas. Le diable veut utiliser ma vie et ta vie pour lutter contre Jésus-Christ. Vous savez ça? Même en tant que chrétien, si on cède, le diable va nous utiliser, mais on n'a pas à céder parce que Jésus-Christ a gagné la victoire. Il ne peut pas créer la vie, le diable. Vous savez cela? N'est pas capable de faire cela. Il ne peut pas créer la vie. Donc il n'a pas d'enfants et surtout pas de petits-enfants. Il essaie de séduire les enfants de Dieu afin de pouvoir les utiliser. Mais un verset, je crois que Philippe l'a ajouté tout à l'heure dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Nous lions ceci. « Ne laissons pas à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses ruses. » Frères et sœurs, je ne veux pas vous décourager ce matin. Je veux vous encourager, parce que la victoire est là. Mais avant de vivre la victoire, il faut qu'on soit conscient des ruses du diable, la manière dans laquelle il veut travailler pour nous séduire. Il est spécialiste dans le mensonge pour décourager les uns les autres. Vous ne vous souvenez pas, peut-être vous ne l'avez jamais eu quand vous étiez petit, mais le nombre de fois où quelqu'un à l'école, un des profs m'a dit « tu n'es bon à rien toi ». J'étais bon hier dans les langues, j'étais bon à rien dans les maths, j'étais bon à rien dans presque tout. C'est fantastique quand on vous dit ça, hein? C'est pas très encourageant. Mais ce sont des mensonges, parce que Dieu n'a jamais dit que quelqu'un était bon à rien. Jamais. Dieu n'a jamais dit que tu n'étais bon à rien. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est un piège du diable pour nous décourager, pour nous bloquer, pour nous flanquer par terre. Le Seigneur n'a jamais dit cela. Il a regardé sa création, il a dit qu'elle était belle, qu'elle était bonne. N'acceptons pas cela. La réponse que j'aimerais citer là, mais la réponse du Père et le Prince de paix dans ce passage de Colossiens 1, versets 11 à 13. Le Père nous a rendus capables d'avoir part au bien qu'il réserve pour toi et pour moi. Il a réservé la victoire, pas la défaite. Il n'a pas réservé la déprime, mais la joie. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. C'est ça que le Seigneur a préparé pour nous. Donc, je répète, le Père nous a rendus capables d'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume de lumière pour ceux qui lui appartiennent. Il nous a arrachés à la puissance de l'obscurité. Ce mot arraché est un mot très fort. C'est l'idée d'un hameçon qui arrache un poisson. C'est l'idée de la résurrection de Jésus-Christ. Il nous a arrachés. On est arrachés de tout cela. Et même ce matin, ceux qui passent par un moment terriblement difficile, il nous a arrachés de tout cela. Et les bien-aimés pour lesquels on prie, parce qu'ils sont dans une période difficile. S'ils connaissent le Seigneur les a arrachés de cela. Il faut le dire avec autorité. La puissance de l'obscurité nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est ça la réconciliation, ça. Dont nous lisons donc 2 Corinthiens 5, on ne va pas le lire maintenant. Il nous a arrachés de la puissance du mal, de l'obscurité, des ténèbres, et nous a fait passer dans le royaume du Fils de son amour. Nous arrivons à mon avant-dernier point. Il fallait y arriver. Le quatrième point, la libération du pays. Les photos que j'ai beaucoup aimé regarder, dans les extraits qui sont déjà passés à la télévision, sont en Normandie, devant ces personnes qui attendent d'être libérées. Quelle joie d'attendre d'être libérées. Nous, on attendait la libération. J'avais ras-le-bol que des bombes tombent quand je reviens de l'école à la maison, que les bombes tournent autour de moi. J'avais envie de pouvoir rentrer en vélo et puis être dans la paix. On avait envie de ça, envie de la libération. Tu as envie de ça ce matin? Tu as envie de ça? De vivre ça? Le Seigneur nous offre cette libération, libérer le pays de l'esclavage et accueillir le Saint-Esprit dans nos cœurs. C'est ça la libération, de nous rendre compte que Jésus est mort pour nous, il est mort pour toi, mais il est ressuscité pour toi aussi. Hein? Faut pas s'arrêter mi-chemin, hein? Il est mort pour toi, mais il est ressuscité pour toi aussi. Et puis il nous a donné son esprit dans nos cœurs. C'est pour ça qu'il est tellement important que nous lisons de garder nos cœurs. De garder nos cœurs. Le péché n'est pas le fait d'être tenté. On a tous été tentés et éprouvés. Le péché, c'est de donner de l'accueil à la tentation. Vous voyez la différence ? Le péché n'est pas d'être tenté, tout le monde est tenté, mais le péché c'est de donner l'accueil à la tentation, de recevoir la tentation et de subir cela. Garde ton cœur plus que toute autre chose, nous lisons dans Proverbe 4, verset 23, car de lui viennent les sources de la vie. C'est dans ton cœur que c'est important que la victoire soit là. Et le Seigneur Jésus dit dans Jean 16, quand le Saint-Esprit sera venu et convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Je m'arrête là un instant. Trois domaines, le péché, la justice et le jugement. Une des choses qui était très difficile au début du débarquement, et on recevait des nouvelles d'heure en heure, ce qui était très difficile, c'était d'apprendre qu'il y avait des poches de résistance de l'ennemi là. Et ces poches de résistance étaient quelquefois très, très puissantes. Il fallait les libérer. Chaque domaine qui devait être repris pour que le pays soit libéré. Et dans ma vie et ta vie, c'est ça que le Seigneur veut faire. Il veut mettre son doigt avec compassion sur cette chose qui devait tomber chaque fois. Il veut guérir cette chose, que tu l'amènes au Seigneur et que la puissance du sang de Jésus-Christ nettoie tout cela une fois pour toutes. Et puis la promesse est donnée à la suite de ce verset, il vous conduira dans toute la vérité. On a déjà entendu ça ce matin. Donc c'est ce quatrième point, libérer le pays de l'esclavage et accueillir le Saint-Esprit dans nos cœurs. Et quand je suis arrivé là dans ma préparation, subitement le mot GPS m'est arrivé. J'en ai pas encore. GPS. C'est formidable ceux qui ont des GPS. Ils rentrent dans la voiture avec un objectif en vue et ils mettent le GPS en marche et l'objectif est atteint. Mais c'est la même chose pour le chrétien. Comme ces premiers soldats sont arrivés, ils avaient un plan. Ils savaient où aller. Ils étaient dirigés par les autorités, par les généraux et tout le reste. Mais le Seigneur a un plan pour ta vie. J'appelle ça le GPS du salut. Les grandes promesses du salut. C'est pas mal ce truc-là. Hein? Les grandes promesses du salut. Alors pensez-y demain, notez-les bien. Il y en a trois que je vous ai suggérés là. Le premier, la première promesse, c'est celle qui a libéré Paul. Quel misérable homme que je suis! « Qui est-ce qui va me délivrer » dit-il. Et puis vous arrivez au chapitre 8, verset 1. « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » La loi, la puissance du Saint-Esprit que donne la vie par communion en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. J'aimerais qu'on dise à haute voix ensemble cette première phrase. Maintenant donc, on recommence, hein? Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On le redit, hein, vous n'étiez pas très clair là. Hein. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Où est-ce que ça se trouve dans la Bible? Ne regardez pas le tableau. Hein. Jean-Paul qui a triché, qui a regardé le tableau. Hein. Romains 8 et verset 1, notez-le bien. Et puis, une deuxième promesse que j'aime énormément dans Jean 7, 37 à 39. C'est dans la fête où Jésus se tient debout devant tout le monde. Et il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Tu as soif ce matin? Pas d'un verre d'eau, mais soif d'un renouvellement dans l'Esprit de Dieu. Et si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive les fleuves d'eau vive. Et c'est quoi ça? Il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Il y en a qui sont un petit peu comme certains dans les actes. Quand on leur a dit, on veut vous enseigner au sujet du Saint-Esprit, ils ont dit, mais on veut bien, on ne savait pas qu'il existait. Il y a beaucoup de chrétiens évangéliques qui ne savent pas que le Saint-Esprit existe. Ils pensent que ça c'est un copyright pour les pentecôtistes, un truc comme ça. Non, c'est biblique. Le Saint-Esprit est là. Quand on reçoit Jésus-Christ, son Esprit veut prendre place chez nous pour dominer là, pour être vraiment là, pour prendre toute la place. Et nous arrivons à cette troisième des promesses. Le péché ne dominera pas sur nous, car vous n'êtes pas sous la puissance de la loi, mais sous la puissance de la grâce. C'est pas formidable cela? C'est pas formidable cela? Je termine juste par une illustration et une remarque là-dessus. Je me souviens, quand j'ai pris l'avion, je crois que c'était d'Air France, juste après la guerre, ce n'était pas souvent qu'on voyageait en avion à ce moment-là. Et par un de ces hasards, je me suis trouvé à côté d'un officier supérieur. Et je ne sais pas, il a voulu me parler. Il m'a dit, c'était ma tâche d'aller à Berlin et de préparer l'armistice. Et c'était très dur, parce qu'il a dit, je suis allé avec la croix rouge, on m'a laissé passer, et on était presque au bout d'un accord quand l'ennemi a dit, non, pas ça. Et j'ai dû repartir voir mes supérieurs qui ont dit, si ce n'est pas ça, il n'y a pas d'armistice. Retourne et dis-leur, c'est une capitulation, on ne sait rien. Et ce monsieur, je ne sais même pas comment il s'appelait, a dû retourner deux autres fois. La condition de l'armistice, c'est une capitulation totale, absolue. On ne s'appelait pas, hein? Jury, ça ne plaît pas à nous autres en France. Hein. On est tellement personnel et égoïste. Peut-être pas vous, mais moi en tout cas. Et vous aussi, je crois. Hein. On ne veut pas céder. On ne veut pas céder. Et le Seigneur dit ce matin, une capitulation totale, il n'y en a point. Quelle est notre réponse? Ce verset que nous venons de lire de Romains 8 et verset 1. Mais maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas vaguement. Qui sont en Jésus-Christ, qui ont cédé leur vie totalement, une capitulation totale à Jésus-Christ. Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. C'est dangereux ça, hein? C'est dangereux ça. Je vais le dire aux jeunes d'ici quelques samedis. Combien c'est dangereux de dire ça au Seigneur. Mais c'est formidable. Et ce matin, quelle est notre réponse? Le péché existe. Je n'ai pas eu envie d'en parler. Hein? On est dans une guerre, je n'ai pas envie d'en parler. Mais j'ai envie de parler de la victoire. Et la paix qui en suit quand on cède à Jésus-Christ. Juste avant de chanter ce chant que tu as préparé, je pense. Hein? Alors, le message n'est pas arrivé. Tu peux le préparer pour nous, veux-tu du péché? Oui, c'est le pouvoir. Et tes frères qui sont derrière vont nous trouver dans, pour pouvoir le projeter, ça va? Ça vous donne du travail, ça. Hein? Formidable, l'homme de la situation. Mais arrêtons un instant. C'est terriblement sérieux ce que j'ai dit ce matin, mais c'est terriblement joyeux aussi, parce qu'une victoire. Je voudrais qu'on passe un moment dans la prière silencieuse pour dire au Seigneur, je cède tout. Je veux briser, que le, péché, le pouvoir du péché soit brisé dans ma vie. Maintenant, Seigneur. Et je veux te donner la place pour être sauveur, mais Seigneur dans ma vie. Seigneur dans ma vie.
Bonjour, c'est le temps maintenant des annonces. Je vous partage les annonces de la semaine. Mardi, étude biblique, c'est juste? Oui. Jeudi, la chorale. Samedi, il y a plein de trucs. Tout d'abord, il y a une matinée de travaux. Et puis comme il y a aussi plein d'autres choses à côté, il y a une certaine partie des personnes qui ne pourront pas participer. Alors, vous ne faites pas trop de soucis, vous pourrez vous rattraper le samedi d'après, le 14. Sinon, samedi, il y a aussi la sortie du groupe d'ados.
C'est
à confirmer. Ok, donc à confirmer par email. Sinon, le week-end prochain, c'est aussi le week-end du groupe de jeunes. Alors, je n'ai pas annoncé d'horaire parce qu'il y aura plusieurs horaires. Alors, ça commence déjà vendredi soir, mais les jeunes seront au courant. Dimanche prochain, un culte, ici, à 10h30, et c'est David Porter qui nous apportera le message. Deux annonces pour un petit peu plus tard. Vendredi 13, donc 13 juin, il y aura ici une soirée organisée par Virage, intitulée « Un pinceau, une voix, 10 doigts ». Et ce concert est en fait une aventure artistique au travers de 3 modes d'expression vivants, donc le pinceau, l'aquarelle, la voix et le piano, avec les 10 doigts. Et vous pouvez trouver toutes les infos que vous pouvez avoir besoin pour savoir qu'est-ce que sera cette soirée. En allant sur Internet, il y a un site qui s'appelle unevoixdixdoigtsunpinceau.com. Je mettrai le lien sur le site. Sinon, encore plus en avance, réservez déjà le week-end des 13 et 14 septembre. Il y aura le week-end au Col des Mosses. Et ce sera sur le sujet des ministères en lien avec les dons dans l'Église. C'est bien aussi de s'y préparer, on est bien à l'avance, mais réservez déjà les dates. Concernant les nouvelles des différentes personnes de l'Église, on peut penser, bien sûr, continuer à penser à prier pour la famille Morand. Alors, il y a une chaîne de prière qui s'est organisée. Chacun, je pense, tous ceux qui ont des emails ont reçu un doodle pour s'inscrire, pour prendre un temps par jour pour prier pour eux. C'est important. En tant qu'Église, notre rôle est quand même de prier les uns pour les autres, surtout lorsqu'il y a des besoins précis et particuliers. Si des personnes n'ont pas d'accès Internet, dites-le-moi. Je peux vous mettre, puis c'est important que vraiment que toute l'Église puisse faire corps et prier ensemble pour ce sujet. On pense aussi à Mike, qui est de retour. Sois béni, conduit, dirigé chaque jour. Des nouvelles aussi de Guylaine, qui va mieux. Alors, ils ne sont pas là ce matin. Ils ne sont pas avec nous parce que Jacques fête ses 80 ans. Et leurs enfants et petits-enfants leur ont réservé une surprise. Ils les ont pris très tôt ce matin pour une journée bien remplie. Et puis aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de René. Bon anniversaire. Que Dieu continue de t'accompagner chaque jour, tous les jours qu'il te donne. Sois béni, René. Continuons aussi de penser à Anne-Lise, à Fernande, à Abel aussi. Encore une dernière nouvelle concernant l'association cette fois. Suite aux dernières élections des renouvellements du Conseil, donc il y a une nouvelle composition du bureau évidemment. Alors je reprends la présidence. Raymond prend la vice-présidence de l'association. Le secrétaire c'est toujours Pierre et le trésorier c'est toujours John. Oui.
Je peux rajouter quelque chose concernant la matinée de travaux. Alors, apparemment, c'est les messieurs qui étaient concernés avec Philippe, mais les dames devaient être concernées parce qu'on va faire des nettoyages. Alors, oui, bienvenue à toutes les dames qui peuvent venir samedi matin à 8h30.
Oui, puis peut-être à préciser aussi pour la matinée de travaux, il y aura plein de choses à faire, donc, et des choses très variées. Il y a encore quelques travaux à la chaufferie pour finir, la taille des arbres, les nettoyages. Donc, il y en a vraiment pour tous. Sinon, je vous invite à vous lever pour vous lire encore 2 versets dans Hébreux 13. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.